بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ فراغ السور. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir par le biais donc de cet outil informatique pour nous donner la possibilité de consacrer un peu de temps à la compréhension de sa religion. C'est là une faveur de la part d'Allah Rabbul Izzah que de nous donner la possibilité d'apporter un peu de nour, un peu de lumière dans nos maisons, les Ahlil Bayt, pour nos proches, pour la famille et parfois même pour un immeuble. Hein, si on habite dans un immeuble, cette rahma qui va descendre et la présence des malaïka dans les demeures où les gens se réunissent, soit physiquement ou alors même de façon virtuelle comme nous le faisons maintenant, se réunissent uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Personne n'a quoi que ce soit à gagner. On n'a pas de, on va dire, c'est pas en cliquant sur le lien qu'on gagne de l'argent ou autre chose. Voilà. Nous sommes réunis vraiment pour Allah Azza wa Jalla, à la recherche de son agrément, de son contentement et dans le but de progresser et de construire donc ce cheminement vers lui Azza wa Jalla. Le thème que nous allons aborder ce soir, Inch'Allah, est un thème en rapport avec l'actualité. Nous allons bien sûr parler de cette maladie, de cette pandémie, le Covid-19, mais de façon générale, de toutes les maladies et des épreuves, al-ibtila, de façon générale, avec comme titre, on va dire, il y a deux parties, comment donner un sens à ces épreuves et comment les réussir. Parce que l'un entraîne l'autre. À partir du moment où j'ai compris le sens des ibtila, le sens des épreuves de ma vie, c'est que j'ai pu orienter mon cœur vers Allah, j'ai pu comprendre que tout ce qui se passe dans ce dunya est sous le contrôle d'Allah, émane de mon Seigneur Azza wa Jal, et que c'est lui qui prend toutes les décisions. Et à partir du moment où je reconnais que tout vient d'Allah Azza wa Jal, je suis en train de me mettre à la bonne place, la place du makhlouq, de la créature, et je reconnais mon Seigneur qui est Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, celui qui organise toutes les choses, et donc je reconnais la grandeur et le caractère divin de mon Seigneur. Et c'est une des nombreuses façons de construire le lien de ibadah, de servitude, d'adoration entre nous et notre Seigneur. Ça se construit quand nous prions, quand nous faisons le dhikr, mais également lorsque nous sommes touchés par une épreuve. Et je ne parle pas de patience encore là. Lorsque j'arrive à donner un sens, à comprendre, à mettre une étiquette, à identifier qu'est-ce qui m'arrive, ça vient d'où, de qui, et mettant, on va dire, entre parenthèses, en sourdine, comment, pourquoi moi, pourquoi pas lui, est-ce que j'aurais pu l'éviter, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, et ainsi de suite, en mettant tout ça de côté, et en réalisant que cela vient d'Allah Azza wa Jal, et dans quel but, quelle est une des hikmah, une des sagesses, je préfère le terme sagesse, hikmah que but, pour quelle sagesse Allah m'envoie cette situation complexe, ben, c'est un lien que je construis avec mon Seigneur, et c'est un lien qui est extrêmement important, et à mon humble avis, c'est un lien qui est encore plus sincère que n'importe quel acte d'adoration extérieur que nous accomplissons. Car dans n'importe quel acte d'adoration, la prière, l'aumône, le pèlerinage, il se peut qu'il y ait de l'ostentation qui s'installe, ou alors, beaucoup plus commun, il se peut que l'action soit accomplie avec rafle, avec insouciance, sans réellement comprendre pourquoi je le fais, quel est le but. Et comme on avait parlé, on avait abordé ce sujet le mardi dernier, le fameux qalbun ghafil, le cœur qui est insouciant, qui ne comprend pas, qui ne donne pas un sens au ibad. Donc il est possible que de les actions externes, il y ait ces manquements. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui me touche dans ma santé ou quelle que soit la nature de l'épreuve, ben, et que je reconnais que cela vient d'Allah et que j'accepte cette épreuve et que je donne un sens et qu'ensuite je vais développer les qualités qu'Allah attend du mubtala, de la personne qui est éprouvée, ben, c'est une construction spirituelle, mais c'est quelque chose qui cette fois-ci sera très sincère parce que c'est uniquement entre mon cœur, ce que je conçois, ce que je comprends et mon Seigneur. Donc là-dedans, il y a un degré de ikhlas, de sincérité qui peut dépasser tout ce que nous pouvons réunir comme ikhlas dans les actes d'adoration. Et il y a quelque chose d'autre qui permet à la foi du croyant au iman, du mu'min, de prendre de l'ampleur, c'est le fait que je suis en train de travailler, on va dire indirectement, une branche de la foi qui est al-iman bil qada et wal qadr, la foi concernant le destin. Parce que on sait qu'il y a six branches de la foi, al-iman billahi wa malaikati, la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses révélations, le jour du jugement dernier et le destin. Et lorsque j'accepte une situation d'épreuve et que je m'en remets à Allah Azza wa Jal, en fait je suis en train d'accepter ce qu'Allah a prédestiné pour moi. Et quand je suis dans ce cheminement d'acceptation, de qaboul, de rida, de satisfaction du décret divin, ben je construis, je consolide une branche de la foi, ce qui fait que mon intérieur, ma spiritualité, elle prend de l'ampleur. Et à partir du moment où ma spiritualité prend de l'ampleur, automatiquement cela va rejaillir sur les actions externes. Je prendrai un exemple parmi tant d'autres et qui reste un motif d'insatisfaction spirituelle de beaucoup de gens. C'est, enfin sans sortir du sujet, mais ça a toujours un lien, c'est par exemple le cœur insouciant lorsque je fais doua. Je fais doua après mes salat, je fais mes invocations, mais en même temps que je demande à Allah Azza wa Jal la santé, le bien-être, la protection contre les choses mauvaises, je n'y pense pas vraiment. Je le fais, c'est presque une routine. Je récite ces invocations comme une comptine, comme un poème. Et à la fin, lorsque je clôture ces doigts, je me rends compte que finalement, je ne suis même pas conscient de ce que j'ai demandé. Je n'ai pas ressenti un lien puissant avec mon Seigneur. Alors que j'accomplis une des actions les plus aimées par Allah, le doua, qui est l'acte d'adoration par excellence. Mais qu'est-ce qui fait que cette invocation, elle n'a pas trouvé, on va dire, un support spirituel assez fort pour me permettre de me connecter avec le divin? C'est que intérieurement, il me manque peut-être des bases de iman, des bases de foi. Et à partir du moment où je vais compléter, c'est un grand terme, où je vais travailler et augmenter ma foi sur le destin, à partir du moment où je travaille ma foi sur le destin, et parmi les différents points de la foi sur le destin, je travaille la notion d'acceptation, la notion de satisfaction, la notion de soumission par rapport à des situations de la vie, ça renforce ma foi, comme on l'a dit tout à l'heure, et automatiquement, quand je vais faire doua, je vais le faire avec beaucoup plus de présence de cœur, avec beaucoup plus de spiritualité, et là, quand je demande à Allah quoi que ce soit et quand je lui demande protection ou la guérison pour un mal ou une maladie ou une épreuve qui me touche, ben je vais le faire avec vraiment présence de cœur. Donc, ikhwani khawati fillah, avant même de parler de la patience dans les épreuves, ce que nous voulons mettre en avant, c'est le fait de donner un sens à ces épreuves, les comprendre, et à partir du moment où je les comprends et que j'intègre le fait que lorsque je suis éprouvé, je fais partie des gens qui sont aimés par Allah Azza wa Jal, et je suis dans la lignée des personnes qu'Allah a éprouvées par maladie ou perte des biens ou des richesses ou autre chose, et j'arrive à m'identifier à ces prophètes alayhimu salatu wassalam qui eux ont vécu, subhanallah, des vies, une vie d'épreuve, chacun une vie d'épreuve, avec des épreuves qui les ont touchés dans la perte des biens, la perte des personnes. On a bien sûr le prophète alayhi salatu wassalam qui a perdu tellement de personnes de sa famille, la perte des biens ou alors la trahison parfois des proches ou les problèmes de santé, la maladie, avec Ayyub alayhi salam comme étant notre modèle. Donc j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis éprouvé, pourquoi est-ce que j'ai des proches, des gens que je connais et que j'aime, qui ont ces épreuves et qui m'affectent indirectement, ou alors même si j'ai perdu une personne que j'aimais, un papa, une maman ou un proche, touché par une épreuve, par une maladie, j'arrive à comprendre que cela vient d'Allah, cela a un sens, cela a un aboutissement, et l'épreuve, de toute façon, elle n'est pas éternelle. Elle est limitée dans le temps et en finalité, nous retrouvons le résultat de cette épreuve, le jour de Qiyam. Ce croyant qui arrive à construire ce schéma spirituel avec tous les maillons, et ces maillons, c'est ce qui compose la foi sur le destin, ben subhanallah, et foi sur le destin qui doit être agrémentée et renforcée par al-iman ou par al-iman billah, c'est-à-dire plus précisément al-asma wa sifat, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, tout ça va faire que je vais bi-idhnillah parvenir à avancer dans la vie quelle que soit la situation. Et surtout, mon cœur ne sera pas habité par la peur. Parce que la peur fait partie des épreuves. La maladie fait partie des épreuves. La perte des personnes que nous aimons fait partie des épreuves. Et ce sont trois épreuves qu'Allah Azzawajal cite dans la sourate Al-Baqarah. Ah, qui peut me citer ce fameux verset? On donne la parole à une personne qui mémorise le verset. Qui peut me rappeler le verset où Allah Azzawajal énumère les catégories d'épreuves par lesquelles il touche les gens qui ont la foi? Ya ayyuhalladhina amanu. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah Rabbul Izzah nous révèle Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. D'accord? Et on a ensuite wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawf, la peur. Allah cite la peur comme étant une épreuve. Wal-ju', la faim. Lorsque il y a la famine, la disette. Wa naqsin min al-amwal, la perte des biens. Wal-anfus, la perte des personnes, des êtres qui nous sont chers. Et en commentaire, Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres mufassirines, pour eux, quand on parle de perte des biens, des personnes, on peut, on va dire, ce sont des titres, hein, ce sont des thématiques. Et dans le thème de perte des personnes, il y a également le fait que des gens, parmi nos proches, soient touchés par des maladies. Donc, Ibn Kathir dit que la maladie fait partie de la perte des personnes, c'est-à-dire ça intègre d'une certaine façon cette catégorie d'épreuves. Et la perte des récoltes, c'est-à-dire notre risque, notre subsistance est dans récolte. On peut comprendre également notre salaire, nos loyers, peu importe, ce qui nous permet de vivre. Et Allah annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Ainsi donc, la peur, ça peut être la peur d'une maladie, ça peut être la peur des ennemis, ça peut être le fait d'habiter dans un pays en guerre, et ainsi de suite. Donc la peur fait partie des épreuves. Mais ce croyant qui s'en remet à Allah Azza wa Jal et qui connaît les noms, les attributs d'Allah, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui a développé, qui a bien travaillé les notions de foi sur le destin, cette personne n'aura jamais un cœur habité par la peur. Parce qu'elle va intégrer le fait que « Qul lan yusibana illa » Moi j'aime bien qu'on complète les versets. J'aurais aimé également que ceux qui ne sont pas en famille, idéalement, de laisser leur caméra ouverte, parce que c'est toujours plaisant de voir des visages familiers plutôt que de voir plein d'écrans d'écrans sombres. C'est beaucoup moins amusant. D'accord. Oui, et apparemment beaucoup de gens sont en train de s'allonger. D'accord. Mais c'est pas grave. Mais au moins ce sont des visages familiers et ça fait plaisir. Donc moi j'aime bien également qu'on complète mes versets. Maintenant que j'ai vu Suleiman, je vais lui demander Qul lan yusibana. Qul lan yusibana. Illa ma kataballahu. C'est un verset ajib, ça. Qul lan yusibana dit rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous, ce qu'Allah nous a prédestiné. C'est-à-dire que le mu'min qui est persuadé, qui a développé cette conviction que ce qui va m'arriver ce soir, demain, après-demain, dans 10 jours, c'est uniquement ce qu'Allah a prédestiné, ben, cette personne n'aura pas cette crainte de perdre ou de passer à côté de quelque chose, ou alors de se dire que si j'avais fait telle chose, il ne me serait pas arrivé telle chose, ainsi de suite. Et justement, quand on parle du Covid-19, cette maladie a une spécificité qui se démarque un petit peu des autres grandes maladies. Après, c'est les scientifiques qui vont dire si c'est une grande maladie ou non. Allah seul le sait. Par exemple, on citerait le cancer ou autre chose, qu'Allah nous protège. C'est que développer le cancer ou des maladies graves, hein, on va dire qu'il y a des signes précurseurs, il y a un terrain génétique, ainsi de suite. Bref, je ne vais pas parler de notions que je ne maîtrise pas. Alors que cette pandémie-là, le Covid-19, il paraît maintenant, c'est au féminin, la Covid, hein, c'est agaçant, mais on va s'y habituer. Ben, cette maladie, subhanallah, vous pouvez l'attraper en sortant de chez vous, en allant acheter une baguette chez le boulanger, en allant faire vos courses, et ainsi de suite. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on chope, on va dire, cette maladie, parce qu'elle circule dans l'air, même si c'était scientifique au départ, n'était pas scientifique, et ils avaient dit que non, ça ne circule pas, maintenant ils revoient leur thèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement incertain et qui est tellement, et j'aime pas le terme, mais je l'utilisais entre guillemets, hasardeux. C'est quelque chose qui est hasardeux. On ne sait pas. Est-ce que c'est sur le panier de la grande surface, il y avait un contact humain de quelqu'un contaminé? C'est-à-dire que si maintenant je vais analyser chaque situation, chaque étape de ma vie et prendre des précautions, ça va pas être possible. Et du coup, Du coup, je ne vais pas vivre de cette crainte qui devient une angoisse permanente, qui devient une psychose, c'est le terme que je cherchais. Je cherchais parce que je sais pertinemment que ce qu'Allah m'a prédestiné, c'est ce qui m'arrivera. Si Allah décide de me protéger, je reste sous la protection d'Allah. Si Allah décide de m'éprouver, ben cette épreuve me touchera. Bien sûr, je prends mes précautions. Hein, le port du masque, ainsi de suite, tout ça, c'est bien compris, c'est bien intégré. Je fais tout ce que je peux en termes de précautions physiques, mais également en termes de lecture de mes adhkar, de mes douas. Bien inconscient, une personne qui quitte sa maison le matin pour aller travailler, en ce moment, plus encore, hein, mais tout le temps, mais là plus encore, sans lire « Bismillah, tawakkaltu ala Allah ». Je parle le nom d'Allah, je place ma confiance en lui, c'est-à-dire que je m'en remets à lui. Et avec les mu'awwidhat, les doigts de protection, ainsi de suite, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, je mets de mon côté, mais là je lis ce que le prophète avait l'habitude de lire. Je prends les précautions en termes de tout ce qui est externe, matériel, physique, ainsi de suite. Et ensuite, j'avance et je m'en remets à mon Seigneur. Ça, c'est quand le croyant a vraiment développé la foi sur le destin. Autrement, comme j'ai dit, on rentre dans une psychose et on peut craindre tout et n'importe qui. Et là, dans ce cas, il est peut-être mieux de s'isoler totalement et de manger que ce qu'on peut faire pousser dans la terre, parce que voilà, toute chose qui vient de l'extérieur peut être contaminée. C'est-à-dire, soit on perd la boule complètement, mais si on a la présence de Iman, le mu'min avance. Et vous savez, mes ikhwan et akhawati fillah, j'allais dire qu'on vit une situation exceptionnelle, des preuves, d'accord, c'est une situation exceptionnelle, on va dire, pour notre génération, pour nous, hein, pour nous, qui n'avons jamais connu vraiment de pandémie, d'épidémie, alhamdoulilah, on n'a jamais connu la peste, on n'a jamais connu le choléra, on n'a jamais connu tout ça, donc pour nous c'est vraiment exceptionnel, mais il faut intégrer, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que la maladie c'est une créature d'Allah. La maladie, ce qu'on appelle les bactéries, les virus et ainsi de suite, c'est de la vie tout ça, c'est de la vie. Tout ça, ça fait partie de la création d'Allah. On a la création d'Allah qui est extrêmement grand, l'ange Jibril, les malaïka et ainsi de suite. Et on a les créatures d'Allah qui sont minuscules, hein, les microbes, les bactéries, tout ce qu'on vient de citer. Et d'autres créatures d'Allah qui sont citées dans le Coran et qui nous permettent de comprendre que parfois quelque chose qui paraît insignifiant, petit de taille et inoffensif, peut causer des dégâts énormes ou peut-être un motif de nusrat, d'aide d'Allah Azza wa Jal. On citera l'exemple bien sûr de Al-Ababil. Dans la sourate Al-Fil, wa arsala alayhim tayran ababil, les moineaux qu'Allah avait envoyés pour détruire l'armée de Abraha avec ses éléphants qui voulaient détruire la Kaaba. Et les savants disent, sans sortir du sujet, que lorsqu'Allah envoie des moineaux, c'est des petits oiseaux, subhanallah, détruire une armée d'éléphants avec des guerriers, avec une armée donc qui était vraiment constituée pour détruire la Kaaba, Allah Rabbul Izza montre sa force, Allah Rabbul Izza permet aux mu'mines également de comprendre que ce n'est pas une question de asbab ou de force de la nature ou de faiblesse et ainsi de suite. Ce n'est pas la logique que nous connaissons, ce n'est pas la sunna, l'organisation que nous avons intégrée. Non, cela vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwan ya khawati fillah, pour reprendre un peu, on va suivre dans le fil de ce qu'on avait prévu après cette introduction, dans cette situation exceptionnel réellement, on ne peut pas s'en sortir sans présence de foi et de iman, sans une remise en question de notre socle spirituel, sans développer la foi sur le taqdir, ce n'est pas possible. Si on attend uniquement la délivrance par le biais du docteur Raoult, et maintenant il est sur la touche, ou par un éventuel vaccin qui viendrait de la Russie, de la Chine ou de l'Europe ou je ne sais pas qui, ou alors uniquement les gestes barrières, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Il faut vraiment que le mu'min arrive à fusionner son cœur avec toutes ses croyances, avec la croyance en Allah, sur le destin et ainsi de suite, pour que la personne, bi'idnillah, puisse surmonter cette épreuve. Le premier point qu'on va citer, c'est le fait que la maladie, c'est une organisation d'Allah, c'est une sunnatullah. C'est de cette façon qu'Allah organise, c'est une des organisations d'Allah Rabbul Izza qui régit ce monde. Et quand Allah envoie une maladie, que ce soit une maladie généralisée comme le Covid ou alors une épreuve particulier à quelqu'un qui a le cancer ou une maladie précise, c'est nullement pour faire du tort aux gens. Rares sont on va dire, les situations où Allah Azza wa Jal a envoyé une maladie pour détruire des gens. On pourrait citer comme exception la maladie qu'Allah enverra à la fin des temps pour détruire Gog et Magog. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Le but, c'est d'éradiquer totalement cette créature, cette race de créature de ce dunya. Mais autrement, lorsqu'Allah Rabbul Izzah envoie une épreuve, ce n'est nullement pour causer du tort ou pour faire du mal aux gens, car Allah Rabbul Izzah s'est interdit à lui-même le zulm. Allah n'opprime jamais ses créatures. Et bien au contraire, Allah Azza wa Jal agit toujours avec clémence envers ces créatures. Et il y avait la notion de taqdir. Donc alors, on peut aborder cette thématique de deux façons. Premièrement, la maladie, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et le fait que cette épreuve existe et peut toucher n'importe qui, ça permet d'une certaine façon de faire émerger du cœur du mu'min justement la croyance sur le destin. Parce que vous savez, quand tout va bien, quand il n'y a strictement aucun problème de votre vie, ben est-ce que vous allez vous accrocher à votre foi? Non. On est dans notre zone de confort, tout va bien, on est heureux. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on a tous déjà vécu cette expérience. Je ne sais pas s'il faut dire heureuse ou malheureuse, mais cette expérience que quand on baigne dans le bonheur, dans la plénitude, quand tout va bien et tout, on finit par baisser de vigilance et par parfois, à diminuer notre quota de doua. On pense moins à faire le tahajjud, le qiyam ou le layl quand tout va bien. Je ne parle pas du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est autre chose. Mais c'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsque j'ai une dette, lorsque j'ai des échéances à régler avant une période, ou j'ai un problème de santé, ou je suis dans l'attente d'analyse de sang, ou alors pour ceux qui ont fait le test Covid, hein, quand on vous dit que les résultats sont dans 24 heures, ben c'est là qu'on stresse. On dit qu'est-ce qu'on va découvrir, est-ce que je suis positif ou négatif. Ben c'est dans ces moments-là que vraiment on se réveille la nuit, on fait le qiyam al-layl, on fait doua, on demande pardon et on a une certaine vigilance. Une certaine vigilance spirituelle. Ce que les ulama disent, c'est que cette sunnah d'Allah, la maladie, Allah l'utilise entre autres pour permettre aux croyants de se remettre en question et de renouer son cœur avec son Seigneur à travers le développement de al-imanu bil-qada'i wal-qadr. Parce que, encore une fois, comme on a dit, ne jamais oublier que croire au destin, ça fait partie des branches de la foi. Et tout ce qui est en rapport avec la foi est en rapport avec l'invisible. Croire en Allah, c'est de l'invisible. Croire aux anges, c'est de l'invisible. Et ainsi de suite, pareil. C'est-à-dire que dans le destin, il y aura une partie que nous pourrons expliquer, comprendre, ce qu'on appelle les asbab, les intermédiaires. Mais il y a une grande partie qui n'aura aucun sens vraiment pour l'homme, qu'on ne pourra pas décrypter et qu'on ne pourra pas vraiment analyser parce que c'est une partie du destin. Ben, il vient directement d'Allah et ça fait partie de Al-Iman Bil-Ghaib. Et ça fait partie de la foi et des qualités du croyant. Alladhina yu'minuna bil-ghaib. Ça veut dire que si je n'ai pas développé la foi en l'invisible, je ne serai jamais un réel croyant. Ça c'est très clair, cette base elle est claire. C'est que à partir du moment où le mu'min développe la foi en l'invisible, c'est là qu'il avance de son iman. Maintenant, si j'attends que tout soit rationnel et que je peux tout expliquer, et que toute chose dans ma vie est une logique, et que ça s'emboîte, et que j'ai un contrôle parce que ça s'emboîte, parce que ça s'enchaîne, j'ai l'impression d'avoir un contrôle sur toutes les situations, mais là, on s'éloigne de la foi. Et le fait qu'il nous arrive justement des imprévus, et que notre vie peut basculer, ça chamboule tout par rapport à une situation d'épreuve, ou alors parfois même une situation de bonheur intense qui change notre vie, le fait que notre vie peut changer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, ben, ça nous permet justement de développer Al-Iman Bil-Ghaib, de travailler notre foi en l'invisible et de développer la foi sur le destin. Hada. Et lorsqu'on disait que les épreuves, Allah Azza wa Jal les envoie essentiellement pour éprouver les gens. J'aimerais écarter directement une mauvaise pensée qui est malheureusement développé, hein, et ça fait partie des sous-ouvan nebillah, des mauvaises pensées qu'on a à propos de notre Seigneur. C'est lorsque, et ça c'est parfois un sport local, ça, chez les Réunionnais, Wallah Musta'an, c'est commenter les maladies des gens. commenter les épreuves des gens, qui c'est qui est à l'hôpital, quelle famille est éprouvée, quelle famille a telle chance, et ainsi de suite. Allah Musta'an, au lieu de montrer de la compassion, on en discute comme un fait d'actualité, comme un feuilleton pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand on entend qu'une personne parfois est hospitalisé, est malade ou a été éprouvé par quelque chose de lourd et que la personne meurt de cette maladie, des fois, na'udhubillah, des fois, des personnes malveillantes, hein, il y en a beaucoup, hein, regardez autour de vous, enfin pas de la famille, mais quand vous sortirez demain, vous allez en voir beaucoup, sans être parano, mais parfois des personnes malveillantes peuvent se dire que ben, les bomam pouli, il a rodé, il a cherché. C'était un, ça même, Allah parfois il punit, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va interpréter les épreuves de nos frères et sœurs, parfois comme étant des châtiments divins, des adams. Et ça, franchement, on n'a pas le droit de porter un jugement sur ce qui arrive à notre prochain. Parce que ce qui arrive, justement, le verbe arriver, ma waqa'a, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, c'est forcément quelque chose qui est prédestiné. Et ça vient d'Allah Azza wa Jal. Je ne suis pas juge ou je n'ai pas la capacité de dire Allah a fait ça pour telle chose. Wallahu a'lam. Allah seul le sait. Mais allez, même si on pousse à l'extrême quelqu'un qui est avant de mourir, d'accord, on connaît un an, deux ans d'hospitalisation, insuffisance rénale ou traitement pour le cancer très lourd. Et au bout de deux ans ou un an, cette personne meurt. C'est un scénario, Allah Musta'an, qu'on a beaucoup. On a vu énormément chez beaucoup de personnes. Même si on pousse à l'extrême, on se dit que ben, c'est peut-être l'expiation de ses fautes. Moi, je n'aime pas non plus dire que cette maladie, c'est l'expiation de ses fautes. Ça, implicitement, ça veut dire que cet homme a connu une vie des péchés et là, il est en train de se faire pardonner, pour ne pas dire en train de payer sur ce dunya. Il ne faut pas aller vers ces termes. Mais même si c'est l'expiation de ses fautes, c'est quand même une rahma d'Allah. Parce que cette rahma d'Allah, cette clémence d'Allah, Rabbul Izzah, permet à Muhammad, à Abdullah, à Ishaq, à Fatima, de quitter ce monde en laissant derrière lui, subhanallah, des années ou peut-être même une vie de ma'asiyah, une vie de péché, afin que lorsque ce croyant retourne vers son Seigneur et rencontre Allah Azza wa Jal, ben, cela se fait dans les meilleures conditions. Et les péchés que cette personne aurait pu retrouver dans son livret de compte ont été finalement anéantis, ont disparu totalement par la maladie. Donc, en aucun cas, une maladie ou une épreuve, c'est quelque chose qui a pour but de faire du mal à une personne. Aucunement. Élévation spirituelle et donner la possibilité à cette personne de se remettre en question, de développer sa foi en Allah sur le destin et de trouver les différents points qu'on va citer, toutes les futuhat, tout ce qu'Allah accorde à la personne qui est éprouvée. Et on a juste à se rappeler ce hadith dans lequel notre prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, les gens qui étaient les plus éprouvés par Allah azza wa jal, c'était les prophètes. Et si Allah envoyait des épreuves pour les prophètes qui, subhanallah, c'était le summum, c'était le paroxysme de la foi, ce n'est sûrement pas parce que na'oudhu billah ils avaient cumulé des péchés ou na'oudhu billah ou qu'Allah les avait punis. Aucunement. C'est un intermédiaire, c'est un moyen qu'Allah utilise pour élever les personnes qu'il aime. Et comme on a dit, nous avons l'histoire de Ayyub alayhi salam, nous avons l'histoire de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui avant de mourir était très malade, et nous avons l'histoire des sahaba, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite dans les exemples qu'on pourrait citer. Et parmi les pandémie, parce que quand on parle de pandémie, c'est différent d'une maladie individuelle. Il y a eu cette fameuse ta'oun, cette peste de Hamas, si je ne me trompe pas, c'est bien dans cette région de Palestine, où certains sahaba et fils de sahaba sont décédés suite à la peste. Ça veut dire que Allah Rabbul Izzah a envoyé des épreuves même aux personnes qu'il aimait le plus. Donc déjà, il faut enlever de notre approche que la maladie c'est une punition ou c'est un signe éventuel qu'Allah est mécontent de nous. Aucunement. Pourquoi? Allah seul le sait, mais en tous les cas, il y a toujours un bien qui va ressurgir, qui va ressortir de cette épreuve. Alors, on va procéder par trois ou quatre étapes, quand on parle de donner un sens aux épreuves, à la maladie. Premièrement, le premier sens qu'on doit donner à ce qui nous touche et qui nous permettra donc de l'accepter, de comprendre, de l'accepter et d'être satisfait du décret divin et ensuite de développer les qualités qu'Allah attend de la personne éprouvée. Donc le premier sens que je dois donner à mon épreuve personnelle, je ne parle pas de jugement, encore une fois, de ce qui touche à un frère ou une sœur, non, de ce qui m'arrive, c'est être conscient que lorsqu'Allah éprouve un serviteur par une maladie, c'est une purification. On a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. On a le hadith de Mas'ud radiallahu anhu qui stipule que « Ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fi ma siwa » Il n'y a pas un croyant qui est touché par une difficulté. Et le prophète alayhi salatu wassalam développe min maradin fi ma siwa, que ce soit une maladie ou autre, c'est-à-dire n'importe quelle autre catégorie d'épreuve. Et là, il faut retourner vers la sourate al-Baqarah où il y a les grandes catégories d'épreuves. Illa hattallahu bihi sayyi'ata, sans qu'Allah rabbul izza sayyi'atihi, sans qu'Allah azza wa jal efface ses péchés, comme exactement comme l'arbre perd ses feuilles, exactement comme un arbre. Et puis si on fusionne avec d'autres hadiths qui vont dans le même sens, exactement comme un arbre qui perd ses feuilles en automne, de la même façon, le mu'min voit, mais ne voit pas, mais ses péchés sont effacés. Ses péchés, on pourrait dire littéralement, tombent de son livret de compte, de son livret de sayyi'at, comme les feuilles tombent d'une branche d'un arbre en automne. On a un autre hadith. Une femme, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, était malade. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait rendu visite à cette femme qui était malade. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam avait donné ce conseil. Et là aussi, parfois on a des gens qui sont dans les épreuves. Et lorsque nous donnons un conseil, la personne réagit. Oui, mais il est facile de parler quand on n'est pas éprouvé. Ce n'est pas là non plus la bonne réaction. Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rend visite à cette femme ou à n'importe quelle personne éprouvée, le prophète alayhi salatu wassalam donne un conseil, c'est pour apporter un réconfort spirituel et ensuite psychologique à cette personne. Donc, si nous recevons des conseils ou des paroles spirituelles d'une personne lorsque nous sommes éprouvés, on ne doit pas avoir cette réaction de se dire que oui, mais toi tu ne sais pas de quoi il s'agit, uniquement les gens qui sont éprouvés qui peuvent le comprendre. Non, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à cette femme, Abshiri, je t'annonce cette bonne nouvelle. Elle est dans une situation d'épreuve et de maladie. Le prophète alayhi salatu wassalam lui rend visite et dit que c'est une bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Fa inna marad al muslimi yudhibu Allahu bihi khatayah kama tudhibu an-naru khabath al-hadid wal-fidda. Sache ô croyante que la maladie du croyant, c'est un intermédiaire par lequel Allah azza wa jal le débarrasse de ce péché, exactement comme le feu purifie le métal de toute impureté. Comme le feu purifie le métal de toute impureté, de la même façon, la maladie, Allah Rabbul Izza l'a créée entre autres pour permettre aux croyants de se défaire, de se débarrasser des péchés qui restent incrustés, on va dire, qui restent rattachés à son livret de compte, son livret de sayyi'at, et péchés pour lesquels il n'a pas la possibilité ou il n'arrive pas, pour lesquels il n'arrive pas à demander pardon. On continue avec un troisième hadith qui nous permet là, cette fois-ci, de comprendre que lorsqu'une personne est atteinte par une maladie, en aucun cas nous devons maudire la maladie ou alors, on va dire, se rebeller d'une certaine façon contre cette maladie. Et non, réaliser que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à une femme, là aussi, qui était dans une grande épreuve, qui touchait sa santé. Et cette femme avait dit que je suis touché par une fièvre très forte, que cette fièvre, la barakallahu fiha, on pourrait dire qu'elle a dit cette maudite fièvre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à cette femme, n'insulte pas, ne maudis pas al-huma, la fièvre, car la fièvre efface, tudhibu khataya bani adam, la fièvre efface les péchés de l'être humain exactement comme, et le prophète alayhi salat a repris la même métaphore, hadith d'imam muslim, exactement comme le feu va purifier le métal de toute impureté. Donc là nous avons déjà une base intéressante de trois hadiths qui nous permet de comprendre que la maladie principalement et les épreuves d'une façon générale nous permet de voir nos péchés, subhanallah, exterminés, détruits, effacés, enlevés totalement, mais totalement sans qu'il n'y ait de retour de notre livret de compte. Ça c'est déjà un point que nous devons intégrer et réaliser. C'est-à-dire que lorsque le mu'min, éprouve donc cette difficulté ou cette maladie, ou ça peut être une douleur, hein, parce qu'on verra par la suite quand est-ce que l'épreuve commence. Ce n'est pas forcément être hospitalisé, être, avoir une situation vraiment critique. Ça peut être quelqu'un qui a une migraine, c'est quelqu'un qui a très mal aux dents, c'est quelqu'un qui a, je pourrais donner un exemple, qui a une tendinite ou qui a mal au genou, ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce qui cause désagrément. Tout ce qui nous enlève, on va dire, de notre zone de confort et qui nous crée, il y a un terme, taklif, c'est plus utilisé en ourdou, ce qui nous crée une quelconque difficulté, tout ce qui nous crée une difficulté, c'est un signe de notre Seigneur, c'est une volonté qui émane de notre Rabb Azza wa Jal pour nous permettre de nous remettre en question et de sortir de cette zone de confort afin que le cœur ne s'endorme pas et ne reste pas, ne perdure pas dans la rafla. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure et je pense que nous allons tous nous reconnaître à travers cet exemple, quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème dans la famille, quand les revenus sont stables, quand la santé, mashallah, est liée, quand il n'y a strictement aucun problème, on finit parfois par s'endormir. On finit par perdre un peu cette force spirituelle et on accomplit les bonnes actions parfois par routine, mais en aucun cas on essaie de se dépasser spirituellement. Alors que le mu'min qui vit une épreuve, il va rechercher l'aide d'Allah. D'où le verset « Ya ayyuhalladhina amanusta'inu bisabri wa salah » Rechercher l'aide de Dieu par la prière et la patience. Et par la prière, c'est une action qui est externe, « a'mal zahira ». Et par la patience, c'est une action qui est « a'mal min a'mal al-qulub », une action intérieure. C'est le lien de notre cœur avec Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est vraiment un point que nous devons intégrer. C'est quand tout va bien, le cœur s'endort. Et le cœur, il finit par être envahi par la rafla, par l'insouciance. Et c'est les épreuves qui vont nous purifier, qui vont nous réveiller spirituellement. Donc, premier point, la personne qui est dans cette souffrance, comme on l'a dit, même si c'est une tendinite, même si c'est mal aux dents, même si une migraine ou autre chose, se dire que, subhanallah, c'est peut-être tel péché, ou autre péché, Allah seul le sait, qui est en train de sortir de mon, pas de mon corps, hein, mais sortir de mon livret de compte par la clémence d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Un soyada qui sourit et qui ne doit pas se dire à chaque fois qu'il se réveille le matin qu'il a mal à la tête. C'est peut-être qu'il a dormi un peu tard, il a regardé trop de séries Netflix, il a regardé 6 épisodes d'affilée, c'est trop. D'accord ? Et si on se réveille avec une migraine et ainsi de suite, il ne faut pas se dire que tout le temps il y a ça, tout le temps ce même problème, tout le temps cette douleur qui revient, ainsi de suite. Mais bien au contraire, donner un sens et se dire que cette douleur-là, ça fait partie des épreuves. Et on dit, alhamdoulilah, c'est une petite épreuve. Avoir mal à la tête, avoir l'épaule qui bouge pas trop, avoir mal au genou, avoir mal au dos, ainsi de suite. On est dans les catégories de petites épreuves. C'est pas les épreuves qui sont lourdes. Il se dit que Allah m'a éprouvé par quelque chose d'infime. Et quand Allah m'éprouve, c'est qu'Allah porte une attention particulière à moi. C'est que je compte pour lui. Autrement, Allah m'aurait laissé dans cette zone de confort où tout va bien et j'avance et je suis comme ce navire qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne. Pas le Wakisho, hein, pas le navire de Maurice, hein. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Non, un navire qui est en train de s'éloigner, s'éloigner jusqu'à arriver tellement loin d'Allah Azza wa Jal parce que tout allait bien. C'est un bateau qui n'a connu aucune tempête, aucune turbulence, aucun raz-de-marée, il n'y a rien eu. Donc c'est quelque chose, il s'est éloigné. Et ça c'est la pire des situations, où nous restons habités par la rafla, rien ne se passe, rien ne se produit, rien n'augmente non plus de notre relation avec Allah Azza wa Jal. Donc quand on a une épreuve, on se dit que peut-être, c'est par cette épreuve qu'Allah est en train d'effacer quelques péchés et nous remercions Allah Azza wa Jal pour cette situation qui a été créée par notre Seigneur. Deuxième point. Vous savez, Ikhwan et Khawati fillah, le jour des comptes, nous aurons tous un grade auprès d'Allah. Nous avons déjà là un manzila. Il y a différents thèmes, un daraja auprès d'Allah. Et comment est-ce que, je pose la question à Abdul Malik, je vois en gros plan. Abdul Malik, comment est-ce que le grade du croyant se concrétisera le jour de Qiyam? Là, du coup, en visuel, on n'a que les Lyonnais, là, mashallah, qui ont laissé la caméra activée. Alors, quel est le résultat quand on dit que chaque croyant a un grade? Quel est l'aboutissement de ce grade le jour de Qiyam? On se rapproche. Ah, d'accord. Là, tu vas vers les étapes de l'au-delà et c'est parfait déjà. C'est déjà parfait. Ceux qui sont à l'ombre du trône d'Allah Azzawajal, ceux qui vont recevoir le livret de compte dans la main droite, ainsi de suite. Mais maintenant, si on va à l'aboutissement, je voulais dire les dernières étapes, c'est le Jannah. Vous savez que le Jannah, subhanallah, a plusieurs degrés et le plus haut degré du Jannah, c'est Al. Al-Firdaus, d'accord? C'est-à-dire que ceux qui sont de l'Al-Firdaus, c'est le plus haut degré. Et d'autres seront dans les degrés intermédiaires, moyens ou plus bas. Mais il n'y a pas de degré bas, bien sûr, dans le Jannah. Subhanallah. Si à cet instant, on pourrait signer pour le premier degré du Jannah, je pense que tout le monde aurait signé et pris tout de suite, sans le moindre doute. Je veux dire que c'est le jour des comptes, pas le jour des comptes, c'est à l'aboutissement du jour des comptes que chaque mu'min réalisera et verra quel était réellement son grade auprès d'Allah Azza wa Jal. Et justement, on a une belle citation de Qais ibn Hammad rahimahullah qui dit Sa'atil waj'i yudhibna. Je ne sais pas pourquoi elle a dit yudhibna, sachant que Sa'at c'est un pluriel d'être inanimé, ça aurait été tudhibu, mais bon, hein, ce sont des pieux prédécesseurs, ils connaissent l'arabe mieux que quiconque. Sa'atul waj'i yudhibna sa'atil khataya. Les moments passés dans la douleur, dans les épreuves, éloignent les moments passés dans les péchés. Ajib, ça. Là, on rejoint la première partie. Les moments que le mu'min passe dans les épreuves, ben ces moments-là vont effacer les moments qu'il a pu passer éventuellement dans les péchés. وَبِالْ مَرَضِي تُكْتَبُ الْحَسَنَاتِ وَتُرْفَعُ الدَّرَجَاتِ. Et par la maladie, les actions sont inscrites dans le livret de compte. Et par la maladie, le grade du mu'min, le grade du croyant augmente auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc là, j'arrive à donner un deuxième sens à l'épreuve. Expiation des fautes, ça on l'a vu tout à l'heure, mais également augmentation du degré, du grade. Et là, on a une autre citation qui nous permet de bien intégrer cette notion. C'est lorsqu'il dit que inna rajula, le mot chaque croyant a un grade auprès d'Allah. Et parfois un homme ne peut atteindre ce grade et ce degré bi'amalin ay faqat bi'amali, uniquement par ses actions. Il y a parfois notre quota de bonnes actions n'est pas suffisant et ne nous permet pas d'obtenir et d'atteindre le degré qui nous est promis dans le Jannah. Fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Et à ce moment, Allah Azza wa Jal va l'envoyer des épreuves par lesquelles ce mu'min finira par atteindre ce haut degré. Ce qui veut bien dire que nos bonnes actions des fois et notre demande de istighfar, de tawbah des fois, n'est pas suffisant pour atteindre les hauts degrés et le haut degré qu'Allah veut pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzat a sa clémence, et c'est la clémence d'Allah qui revient à chaque fois qu'on parle d'épreuve, quand Allah voit dans sa clémence que le mu'min n'arrive pas à monter de grade par ses bonnes actions, Allah peut envoyer des épreuves afin que ces ibtila, ces épreuves lui permettront de monter en grade. Donc là déjà, ça me donne une autre conception, une conception totalement différente de ce que la société nous a inculqué hein, concernant les épreuves. Dans notre société, quand on parle de quelqu'un qui est atteint du Covid, déjà on a peur. On a peur, on ne veut plus l'approcher, on ne veut même plus parler au téléphone. Même si on envoie un WhatsApp, on se dit que qui dit que le WhatsApp n'est pas porteur ne véhiculera pas d'autres choses. Bref, ils deviennent comme des pestiférés. Quand quelqu'un est éprouvé, ben on a peur. On a peur et on se dit que, on lui dit miskin, hein, le pauvre et tout, comment ça lui est arrivé, pourquoi lui, et ainsi de suite, d'accord. Et alors que de notre din, bil'ax, bien au contraire, lorsque quelqu'un est éprouvé, cette personne doit intégrer que premièrement, Allah veut du bien pour lui, Allah a pensé à lui, Allah l'a envoyé une épreuve. Subhanallah, à la carte qui est taillée exactement pour sa capacité spirituelle qui lui permet de supporter et intégrer cette épreuve. Et Allah, par cette épreuve, est en train de pardonner ses péchés et lui permettre d'atteindre un haut degré, Inch'Allah, auprès de lui dans le Jannah. Donc ça, deux notions. On va aller un peu plus vite. Troisième sens que je dois donner à la maladie et aux épreuves d'une façon générale. L'épreuve, l'ibtila qui vient d'Allah Azza wa Jal permet au mu'min de construire son akhira, de construire l'au-delà. Et ça rejoint la notion de grade dans le Jannah qu'on avait dit, mais d'une façon générale, par l'épreuve, Allah augmente le grade du mu'min et du coup, si mon grade auprès d'Allah augmente, ça veut dire que je serai mieux accueilli dans l'au-delà et j'aurai un grade souhaitable, un grade élevé, bi-idhnillah, le jour du Qiyam. On vous cite un hadith d'Imam Ahmad et d'Ibn Majah, rahimahullah, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam avait rendu visite à une personne. Là aussi, le prophète alayhi salat wa salam rendait visite très souvent aux personnes malades. C'est une action qui malheureusement se perd de nos jours, mais que nous devons mettre en application. Mais bien sûr, là aussi, avec l'intelligence du contexte. Ça, c'est une parenthèse à laquelle j'y tiens. La mise en application des sunnas ne doit pas se faire les yeux fermés, tête baissée, foncée. C'est une sunnah, je l'accomplis. Le mu'min réfléchit. Il réfléchit et il sait que le prophète alayhi salat wa salam a peut-être fait des choses dans certaines circonstances et dans d'autres occasions, il ne les a pas fait. Parce que si on analyse les quelques textes, il me semble qu'on en a cité trois, où on a mentionné que le prophète alayhi salat wa salam avait rendu visite à un malade. Maintenant, si une personne a un accès, on va dire, un peu limité au hadith et que la personne en mode autodidacte, il extrait des règles, il y en a beaucoup aussi, hein, et il extrait des règles à partir d'un hadith ou deux, et il s'autoproclame donc spécialiste en hadith, il se dit que le prophète alayhi salat wa salam rend des visites aux malades, donc il faut rendre visite à toutes les personnes qui sont malades. Et il n'y a aucun risque de contagion, car le prophète alayhi salat wa salam rend des visites aux malades. Maintenant, pour avoir une compréhension plus globale, on doit également savoir que le prophète alayhi salat wa salam interdit aux personnes d'aller dans un endroit où il y a la peste ou d'en sortir, les textes qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y a un équilibre et un juste milieu, et il faut de la clairvoyance, il faut de la connaissance religieuse, et il faut avec ça de l'intelligence, et ce qu'on appelle l'intelligence du contexte. Je vais vous citer un exemple. Sur les réseaux sociaux, récemment, j'ai vu un groupe, je sais pas qu'on appelle, ou un site internet, bref, une bannière qui est très connue, où la personne avait cité le hadith de lequel il stipulait que si on a de la nourriture qui tombe sur le sol, il faut souffler trois fois, dire bismillah, et on peut le manger. C'est une sunnah. Tout comme manger avec les mains, on va dire c'est une sunnah. Maintenant, l'intelligence de contexte, c'est quoi? C'est que dans un contexte de Covid, d'accord? Vous imaginez que vous êtes au restaurant, vous êtes à l'extérieur et tout, et que vous mangez votre, peu importe, pizza ou votre burger avec vos frites ou ainsi de suite, vous avez des frites qui tombent, d'accord, sur le sol. Ben, ce n'est pas le moment de les prendre et de souffler, de dire bismillah et manger, parce qu'on est dans un contexte où, voilà, où c'est vraiment défavorable. Donc l'intelligence du croyant, c'est également permettre, c'est le discernement. C'est pas une mise en application de la sunna sans réfléchir. Le mu'min est une personne qui avant tout réfléchit et analyse les situations. Le prophète alayhi salat wa sallam a rendu visite à cette dame, à cette personne qui était souffrante, mais dans d'autres situations, on va dire pour d'autres maladies qui sont plus connues pour être beaucoup plus contagieuses, le prophète sallam a interdit totalement que les personnes malades se mélangent aux personnes qui sont en bonne santé. Et là, il y a un hadith qui va dans ce sens. Donc le prophète alayhi salat wa salam avait rendu visite à une personne, je reprends le hadith de Ibn Majah et de Imam Ahmad, qui était éprouvé par la maladie, et le prophète alayhi salat wa salam dit, ça c'était un homme, il dit abshir, pour la femme il avait dit abshiri, c'était au féminin, il a dit abshir, fa inna Allah yaqul, que Allah dit que la maladie c'est l'équivalent de son feu. Après, c'est une métaphore, c'est pas, la maladie n'est pas un feu, bien sûr. C'est l'équivalent du feu qu'Allah Rabbul Izzah, par lequel Allah touche des personnes de ce dunya, afin que cette personne en soit préservée le jour des comptes. Là, vous voyez la relation, et le sens profond de la métaphore, le fait que le terme nar ait été utilisé, c'est que la personne sera préservée du feu de l'enfer. Et sa protection contre le feu de l'enfer, c'est quoi? C'est l'épreuve qui le touche, qui est l'équivalent, on va dire. C'est comme le feu du Akhira, mais ça le touche d'une certaine façon de ce dunya, afin qu'il soit totalement préservé et protégé du feu dans l'au-delà. Donc, la maladie, c'est une garantie, bi-idhnillah, de protection contre les châtiments le jour de Qiyamah. Donc, comme on a dit, construction de son Akhira, on commence par éliminer la piste de châtiment et de azab. Maintenant, en termes de récompense, construction de l'au-delà par les problèmes de santé, par la maladie, et puis là, une parenthèse, il y a des gens qui sont atteints de maladies auto-immunes, d'autres qui ont des maladies beaucoup plus lourdes aussi, insuffisance rénale qu'on avait citée tout à l'heure ou autre, qui fait que c'est un problème de santé qui est permanent qui s'installe et qui empêche la personne d'avancer comme tout le monde et parfois même d'apprécier la vie comme la personne aurait aimé le faire. En fait, plus l'épreuve est grande, intense et elle s'installe, ça veut dire qu'Allah Rabbul Izzah veut quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant pour cette personne fil akhirati dans l'au-delà. Justement, construction de l'au-delà, on parle maintenant du Jannah, du paradis. On a un hadith Qudsi de lequel Allah Azza wa Jal a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Yabn Adam, ô fils de Adam, in sabarta wa ihtasabta inda sadmati al-oula, ô fils de ô être humain, si tu fais preuve de patience et avec espoir de rétribution dès les premiers instants de l'épreuve, je n'accepterai rien d'autre pour toi comme récompense, duna al-jannah, si ce n'est le paradis. Hadith de Ibn Majah. Ça veut dire que le mu'min, mais là on est déjà en train de parler de la réaction de foi. Allah Rabbul Izzah a promis à ce mu'min qui accepte son épreuve et qui fait preuve de patience et qui donne un sens à l'épreuve. Parce que le terme « wahtasabta », ça vient du masdar « ihtisab ». Et on a, je pense, beaucoup mentionné cette fameuse qualité intérieure qui est « ihtisabul ajri », l'espoir de rétribution. C'est lorsque j'accomplis une bonne action, j'ai cette conviction qu'Allah va m'accorder quelque chose de l'au-delà. C'est lorsque je demande... Lorsque je m'éloigne d'un péché, j'ai cet espoir qu'Allah va m'accorder quelque chose de merveilleux à partir du moment où j'ai délaissé quelque chose pour Allah. Et dans l'épreuve, lorsque je suis éprouvé, j'ai cette conviction qu'Allah va m'accorder quelque chose dans l'au-delà. Donc, du moment que le mu'min réunit dans son cœur tout ça, ça se passe où ? Dans le cœur. La patience, l'espoir de rétribution par rapport à cette épreuve, dès les premiers moments, c'est-à-dire que sa foi, elle est là, elle est présente, ne se plaint pas aux gens. C'est pas que je vais étaler mon angoisse ou je vais parler de mes problèmes sur les réseaux sociaux, je vais demander, faites une cagnotte pour moi parce que j'ai tel problème, ainsi de suite. Bref, je ne vais pas en parler aux gens. Là, wallah, je le garde pour moi parce que l'épreuve, c'est quelque chose qui est personnel. On n'a pas besoin de l'étaler, de l'exposer aux gens. Celui donc qui, mashallah, développe cette situation, Allah Azza wa Jal dit, il n'y a rien d'autre pour lui, si ce n'est d'un al-jannah, à part le jannah. Donc, en commentaire, les savants disent, quand tu acceptes ton épreuve et tu l'intègres et tu adoptes l'attitude du croyant, Allah Azza wa Jal te promet le jannah. Et qui dit promesse du jannah, c'est également protection contre le feu de l'enfer. Donc, c'est la troisième notion que nous devons intégrer. La maladie et les épreuves, d'une façon générale, c'est notre... Subhanallah, notre garantie de protection contre les châtiments le jour des comptes, mais c'est également bi'idhnillah wa insha'Allah une garantie d'obtention du Jannah, du paradis, yawm al-qiyam. Et on va conclure, on va dire, cet ensemble de hadith par justement l'épreuve. Là, on a parlé, on va parler des catégories. Voilà, des catégories d'épreuves, parce qu'il y a des petites épreuves et il y a des grandes épreuves. Quand on parle de petites épreuves, c'est un hadith que j'avais noté quelque part, je ne le retrouve pas, de lequel notre prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que shawkatun, une épine qui pique. Subhanallah, le croyant, c'est-à-dire quelque chose d'infime que le croyant ressent, c'est déjà une porte d'entrée aux épreuves. C'est-à-dire que lorsqu'il nous arrive quelque chose de minime, hein, je citerai un exemple tout bête, vous marchez et ça c'est quelque chose qui est un peu agaçant, vous avez votre petit orteil hein, qui s'écrase contre la porte ou alors contre un meuble et tout. Plutôt que de dire des atrocités, des gros mots, dans toutes les langues qu'on connaît, en chimaoré, en comorien, en créole et autres, on se dit que subhanallah, voilà donc une épreuve qui me touche quand c'est au réveil, c'est un peu plus dur, hein, quand on vient de se réveiller, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais voilà une épreuve qui me touche. Et c'est quelque chose d'infime. Quand, encore une fois, j'ai un petit peu mal à la tête ou j'ai une petite douleur quelque part à droite ou à gauche, on se dit que voilà le seuil de l'épreuve. L'épine qui touche, qui pique le croyant, ça fait partie des épreuves. C'est pas un hasard. Ça, je dois bien intégrer, d'accord ? Je prends quelque chose et tout, il y a quelque chose qui m'a piqué, qui m'a... Bref, et ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. hasard, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, ce n'est pas insignifiant. Je ne dois pas dire, oh, c'est rien du tout. Non, ce n'est pas rien. Tu dis que subhanallah, signe qui vient de mon Seigneur, une petite épreuve. Ça, c'est ce qu'on appelle également ibtila. Et quand Allah nous envoie des petites épreuves, on remercie que l'épreuve est petite, mais il y a son effet en termes de pardon des péchés. Après, il y a, subhanallah, les grandes catégories d'épreuves. Les grandes catégories d'épreuves, ce sont les maladies qu'on a citées tout à l'heure, ça peut être la perte d'un proche, ainsi de suite. Et là, on a un hadith qui est exceptionnel et qui, on va dire, qui renforce psychologiquement le moumine, en plus de le renforcer spirituellement. C'est lorsque le prophète, alayhi salat wa salam, nous rappelle que, lorsque le moumine est atteint par une épreuve qui l'accable, qui s'installe et qui donc qui s'installe dans le temps, Allah Rabbul Izzah éprouve tellement ce croyant, hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi min khati'ah, rawahu at-Tirmidhi, que le mu'min qui est éprouvé de façon permanente à long terme par une quelconque difficulté, Allah Azza wa Jal libère jour après jour ce croyant de tous ses péchés. Jusqu'à ce que cette personne, on a cette métaphore, yamshi ala al-ard. Cette personne marche sur la surface de la terre, c'est-à-dire cette personne vit comme vous et moi. Elle vit dans la société, elle évolue, mais cette personne n'a plus le moindre péché sur son livret de compte. Ça veut dire que l'épreuve était tellement forte, elle était tellement installée dans sa vie, que les péchés du lundi, du mardi, du mercredi, jusqu'au samedi, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, ben, si péché il y a eu, et tout être humain accomplit des péchés au quotidien, ben, ces péchés-là sont effacés progressivement et régulièrement. Régulièrement, c'est le terme qu'on doit retenir par l'épreuve qui s'est installée sur long terme. Et quel est le natija, le résultat? C'est que, et là on rejoint un autre hadith, حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ, jusqu'à ce que cette personne un jour, يَلْقَ اللَّهَ, cette personne rejoigne son Seigneur, cette personne rencontre son Seigneur, وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ, et il n'y a plus un péché sur son livret de compte. Et le fait d'intégrer qu'une vie d'épreuve peut me permettre de rencontrer Allah le jour de Qiyama, lorsque mon livret de compte me sera remis, et lorsque je vais passer devant le tribunal d'Allah pour être jugé, lorsque mes actions bonnes comme mauvaises seront mises à la balance, et que le fait que cette vie d'épreuve me donne peut-être la possibilité de connaître ces épreuves de l'au-delà, ces situations terribles de l'au-delà, de la façon la plus, on va dire, d'une façon exceptionnelle qu'on ne pouvait même pas souhaiter de ce monde, c'est-à-dire retrouver un livret de compte de lequel il n'y a plus aucun péché. Donc aucun compte à rendre et ne voir aucun péché s'installer ou peser dans la balance au jour de Qiyama, c'est un bon bi'idhnillah pour un accès au Jannah, et ça nous permet de comprendre qu'il y a un monde réellement qui nous sépare entre ce dunya et le akhira, un monde de perception. Ma perception de la douleur, de la maladie dans ce dunya, c'est toujours quelque chose de négatif. Mais le mu'min qui l'a compris, qui l'a intégré, comme on a dit, les qualités qu'on doit développer, le jour de Qiyama, la perception sera totalement différente. Toutes ces journées, ces semaines, ces mois, ces années, peut-être une vie passée dans la maladie, ça ne sera que du bonheur et du positif le jour de Qiyama, parce que la personne va rencontrer son Seigneur sans le moindre péché, et celui qui rencontre Allah sans péché, c'est quelqu'un qui va entrer au Jannah, bireyli hisabin wala azab, sans châtiment, mais sans même rendre de compte, sans même avoir à répondre à la moindre mauvaise action dans ce dunya. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité d'intégrer ces quatre notions, l'expiation des fautes, l'augmentation du daraja, du grade, l'obtention des récompenses et la construction de l'akhira par le biais, par l'intermédiaire des épreuves. Maintenant, il ne faut surtout pas demander, souhaiter des épreuves là. Il ne faut pas se dire que j'aimerais, na'oud billah, être éprouvé pour avoir telle chose. Non. On prend nos précautions, on avance, on s'en remet à Allah. Et si jamais quelque chose nous atteint, c'est ce qu'Allah aura prédestiné. Et là, il faudra faire preuve de patience, développer des qualités de foi, s'en remettre à lui, avec espoir de rétribution, qu'on va retrouver le résultat de ces épreuves, de ces ibtilas, le jour de Qiyam. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans les commentaires de Riyad al-Salihin, commentaires qui ont été traduits en français d'ailleurs. Ça se présente, là je ne l'ai pas avec moi, on l'a à la madrasa, ça se présente sous la forme de livret en quatre volumes, il me semble, différentes couleurs, jaune, vert, bleu. Commentaires de Riyad al-Salihin, c'est vraiment un trésor, hein, et ça a été super bien traduit, mashallah. Dans le chapitre concernant la patience de Jardin des Vertueux, Ibn Uthaymin, rahimahullah, explique qu'il y a quatre catégories de croyants face à l'épreuve. Il me semble qu'on a déjà parlé, on a déjà abordé ce thème, mais c'est à notre époque, dans cette situation, hein, il est important hein, de faire des rappels, c'est valable pour nous-mêmes en premier, et ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe. On a cette personne qui est éprouvée et qui n'accepte pas l'épreuve. Yunkiru al-ibtila se dit que pourquoi moi ? Et ça c'est une question, na'oud billah, qui s'approche du kufr. Parce que ne pas accepter le destin, c'est remettre en cause la décision d'Allah Azza wa Jal. Et la personne n'accepte pas l'épreuve et aurait souhaité que l'épreuve ne l'atteigne pas et touche quelqu'un d'autre. Sans souhaiter du mal à quelqu'un d'autre, mais la personne n'accepte pas l'épreuve. Donc ça, c'est la catégorie, on va dire, la plus basse. Deuxième catégorie, c'est la personne qui est éprouvée et qui accepte l'épreuve. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne remet pas en question ce qui lui arrive. La personne dit que oui, ça vient d'Allah et j'accepte. Mais intérieurement, il y a al-qaboul, mais il n'y a pas al-rida. Il y a l'acceptation de l'épreuve, mais il n'y a pas la satisfaction. Le fait d'accepter et d'être satisfait de ce qu'Allah a prédestiné pour maintenant. C'est-à-dire que j'accepte, je vis, je suis patient, je ne me plains pas, je fais ce qu'il y a à faire. Mais dans mon cœur, je me dis que j'aurais tellement aimé que cela ne m'atteigne pas. J'aurais tellement préféré que ce jour-là, je ne sois pas sorti de chez moi et que je ne rencontre pas tel frère qui n'a pas respecté les gestes barrières, qui m'a fait salam et qui m'a transmis sa maladie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la personne a accepté, mais son cœur n'est pas satisfait du décret divin. Ça, on va dire, déjà, il y a une présence de foi là-dedans. L'acceptation, c'est déjà une présence de iman, mais la foi n'est pas complète. Troisième catégorie, c'est la personne qui a accepté l'épreuve et qui est satisfait du décret divin et qui, mashallah, va faire preuve de patience, s'en remet à lui, demande doua et il a la conviction que la délivrance ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal. On peut se dire que voilà, le summum, c'est le plus haut degré de patience et c'est vraiment la personne qui réussit l'épreuve. Oui, mais il y a une catégorie qui dépasse cette catégorie encore, c'est la personne qui, et ça c'était, subhanallah, le degré de foi des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, c'est les personnes qui, dans les épreuves, remercient Allah de les avoir éprouvés. Et ça c'est quelque chose qui nous interpelle profondément, c'est que tu es éprouvé par quelque chose, et ta première réaction c'est lever les mains et shukrulillah, remercier Allah qui m'a envoyé cette difficulté. Ça paraît totalement décalé, c'est paradoxal, c'est incompatible pour nous parce que nos valeurs ou alors notre iman n'a pas atteint ce degré, mais les sahaba, eux, ils avaient atteint ce degré parce qu'ils savaient, comme on l'a dit tout à l'heure, que lorsque l'épreuve touche une personne, c'est que c'est quelque chose qui vient d'Allah et qu'Allah a voulu un bien pour toi. Et donc ce mu'min remercie Allah parce qu'il a la conviction qu'Allah est en train de l'élever, de pardonner ses péchés, Allah lui veut du bien par l'intermédiaire de cette épreuve. Donc si on arrive à intégrer hein, ces degrés de foi et d'acceptation de l'épreuve, assurément, on ne vit plus les situations d'adversité comme une fatalité ou comme quelque chose de catastrophique. On finit par se dire, je le répète, je m'en remets à Allah, Je prends mes précautions et ce qui arrive, ça arrive de la part d'Allah. Et personne ne pourra obtenir, là on parle des bienfaits, quelque chose qu'Allah ne l'a pas prédestiné et personne ne pourra échapper à quelque chose de difficile qui est écrit pour lui. Et dans les situations de difficultés, ben, je m'en remets à mon Seigneur. Cette personne va avancer et la personne ne va pas vivre les situations d'épreuve comme quelque chose de totalement chaotique et catastrophique. On va conclure, on en est à combien de temps là? On peut laisser 10 minutes. Oh, ah, subhanallah, il y a une heure quand même, hein, j'avais pas vu le temps passer. On laissera 10 minutes pour les questions éventuelles sur le sujet, idéalement. Quelques conseils pour conclure. Conseils aux personnes qui sont éprouvées par cette maladie, le Covid ou autre maladie. Hein. Nous, on parle beaucoup du Covid, mais on connaît des personnes qui sont alitées depuis 2 ans, 3 ans, à la suite de maladies graves. C'est-à-dire qu'il y a des situations d'épreuve qui dépassent de loin tout ce que nous sommes en train de voir et que nous constatons, que nous vivons pour certains à notre époque. La personne qui est éprouvée, qui est malade, doit déjà intégrer, bidnillah, tout ce qu'on a essayé de rappeler, penser à ses promesses. Tout ça, ce sont des promesses divines et se rappeler que tout ce qui m'arrive, ben, ça découle de la sagesse d'Allah Azza wa Jal qui veut un bien pour moi. Et ce bien, je ne vais pas le voir forcément de le dunya. Parce que l'expiation des péchés, je ne vois pas le résultat de ce dunya. Un grade qui est augmenté, je ne vois pas ça de le dunya. Les hasanat, les bonnes actions, les récompenses qui sont greffées dans mon livret de compte, je ne les vois pas non plus de ce dunya. Tout ça, le résultat est dans le akhira. C'est-à-dire que l'aboutissement de l'épreuve, c'est uniquement dans l'au-delà que je vais le voir, le contempler et l'apprécier. Hada. Deuxième point concernant les personnes qui sont éprouvées, développer la patience pour Allah. As-sabru lillah. Il y a une différence entre être patient et être patient pour Allah. La patience, on va dire tout court, c'est ne pas se plaindre, hein, d'accord. Il n'y a pas besoin de foi ou de iman pour être patient. Mais quand on dit as-sabru lillah, c'est donner un sens, c'est se dire que c'est une épreuve qui vient d'Allah et je me montre patient parce que je veux me montrer digne de cette épreuve qu'Allah a envoyée afin qu'Allah soit satisfait de moi. Et associer la patience à ihtisab al-ajr, l'espoir de rétribution, c'est ce qui nous permet de donner un sens, se dire que dans cette difficulté, c'est peut-être par cette difficulté qu'Allah va me délivrer du feu de l'enfer, qu'Allah va m'accorder son Jannah, qu'Allah me permettra de voir mon livret de compte dénué de tout péché et qu'Allah me permettra de passer sur le sirat à la vitesse de l'éclair et d'accéder au Jannah. C'est-à-dire que si on arrive à s'accrocher à ces promesses divines et à intégrer la sagesse d'Allah dans les épreuves, Inch'Allah, spirituellement on avance, mais également psychologiquement, qu'on arrive à donner un sens. Autre conseil, sans être prétentieux, mais c'est une réalité, et là on parle plus du Covid-19, si une personne est atteinte par cette pandémie, il ne faut pas avoir honte. Parfois on a l'impression que quand on entend que quelqu'un l'a eu, ben c'est presque une honte. Non, c'est pas comme, excusez-moi, c'est pas comme un MST que quelqu'un a attrapé parce qu'il a commis le zina ou voilà, qu'il y a eu des choses que quelqu'un veut cacher ce péché qui est c'est un lapsus, ce péché. Quelqu'un veut cacher cette maladie parce que c'est quelque chose de totalement disgracieux et ainsi de suite. Non, c'est quelque chose, je connais des personnes qui ont été atteintes du Covid en venant en aide à une personne, en accueillant, en hébergeant une personne, en allant à la rencontre de quelqu'un qui était souffrant, et la personne a été contaminée. C'est-à-dire que ne pas le vivre comme une honte, aucunement, ne pas se sentir, ne pas avoir honte, c'est une épreuve qui vient d'Allah, et ne pas le cacher dans le sens où, si une personne a, et là ça, j'emboîte avec une autre thématique, c'est maintenant la personne malade du Covid, mais qui est, imaginez, qui est asymptomatique. Hein. Et ça, c'est un conseil qui est très important. Quelqu'un qui a un test positif, mais qui n'a strictement aucun symptôme, ben, il ne faut pas cacher, on va dire, cette maladie, parce que, on va dire que sinon les personnes ne vont pas prendre de précautions. Et quand une personne est atteinte du Covid et que la personne est totalement asymptomatique, il faut faire preuve de civisme, de clairvoyance. Déjà remercier Allah qui t'a éprouvé, mais une épreuve qui est légère. C'est juste psychologiquement que tu sais que il y a cette maladie en toi, mais qu'Allah ne t'a pas éprouvé par une insuffisance respiratoire, étouffement ou tous les symptômes qui sont catastrophiques qui mènent aux urgences. Mais dans cette épreuve et dans cette épreuve qui a été facilitée, ne mets pas les autres en danger. Il y a des personnes qui se font tester positifs et à partir du moment où ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas de toux, ils n'ont rien du tout, ils se disent que bon ben la septaine, ben, c'est pas pour moi, hein, je suis pas malade. Donc peu importe, maintenant les gens ils gèrent leur maladie eux-mêmes et la personne va se rendre dans les grandes surfaces, il va faire la queue à la pharmacie ou parfois même aller à la prière. Il va prier dans la masjid alors que cette personne peut contaminer son prochain. Et là ça va à l'encontre de tous les préceptes de notre prophète alayhi salatu wassalam concernant la contagion. Lorsque le prophète dit que n'allez pas dans un endroit où il y a la maladie et si vous y êtes, n'en sortez pas. Le but c'est quoi? C'est de préserver hifdhun nafsi, protège-toi et protège ton prochain. Quand on te dit de ne pas entrer dans une ville où il y a la peste, c'est-à-dire que tu es bien. Voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas dans, ne vous précipitez pas dans la destruction, c'est-à-dire ne te fais pas du tort à toi-même. Mais maintenant quand tu y es, ne va pas dans un endroit où il n'y a pas cette maladie parce que tu vas faire du mal à ton prochain. Donc il y a deux principes, ne hifdhun nafs, protège-toi, mais également protège ton prochain. Maintenant, si je suis asymptomatique et je vais prier même au premier rang de la masjid parce que j'ai besoin de ma prière, c'est important pour ma foi. Oui, c'est important pour ta foi, mais là, dans cet instant précis, non. Dans cet instant précis, mets en avant le conseil prophétique, n'exporte pas la maladie, n'expose pas ton frère à cette maladie. Ce serait un péché. Ce serait un péché, ce serait un comportement totalement irresponsable, ce serait causer du tort à son prochain, ce serait faire du zulm, être injuste envers ton frère ou ta sœur. Donc la personne qui a cette maladie, on a dit ne pas avoir honte, ça c'est clair. Et deuxièmement, autant il faut faire en sorte que les proches et les gens qui nous fréquentent, qu'ils sachent qu'on a ce problème de santé qui est éphémère. C'est une semaine ou une dizaine de jours pour que les personnes prennent leurs précautions, pour que le mal ne les touche pas, pour que nous ne soyons pas un motif de difficulté pour notre prochain had. Et troisième thématique, on va dire en termes de conseils, et on va clôturer avec ça, pour les personnes qui, alhamdoulilah, qui sont en parfaite santé, et qui n'ont pas été atteintes par cette maladie ou autre, il faut faire shukr, remercier Allah tous les jours. Et deuxièmement, demander protection contre toute maladie. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-judami wal-junun. Et le dernier terme nous importe, wa min sayyi'il asqam. Et toutes les maladies. Le prophète demandait ce doua régulièrement, protection contre les maladies. Et là, ça nous permet de voir quel est le juste milieu entre le fait que, subhanallah, le mu'min qui est atteint par l'épreuve, il sait que ça vient d'Allah, mais en même temps ne cherche pas la maladie, ne t'expose pas à la maladie, demande protection. Demande protection, reste éloigné. Mais si ça te touche, sache que ça vient d'Allah, ça a été voulu par Allah. Et là, tu dois développer les réactions spirituelles du mu'min. Mais la base, al-as, c'est de demander protection contre cette maladie et contre toute autre maladie. Troisièmement, prends toutes tes précautions. Place ta confiance en Allah, Azza wa Jal. Essaie de protéger les gens qui te sont chers. Parfois, même si dans des périodes un peu délicates, on doit faire des choix difficiles, comme ne pas rendre visite à nos parents, à nos grands-parents qui peut-être sont âgés. Ben parfois c'est ça peut être un crève-cœur, mais parfois il faut le faire. Hein. Si par exemple, je sais que dans ma profession, hein, imaginez que je suis moi-même infirmier, je sais pas, ou kiné, médecin ou autre, hein, artisan, qui je vais chez des gens régulièrement et que il est impossible de se préserver, de se protéger totalement, peut-être que dans des périodes difficiles, prendre un peu de distance avec les personnes qui sont plus fragiles, mais les informer que voilà, je vais éviter de rendre visite pour telle chose. Le but, c'est de protéger ses proches, de protéger son prochain. Et ne jamais oublier de développer la croyance en ces noms d'Allah Azza wa Jal. Et en ce moment, c'est vraiment Ar-Rahman. On a besoin de comprendre, d'intégrer qu'Allah est clément, miséricordieux et qu'Allah est Al-Latif, qu'Allah est bienveillant. Et quand Allah, Rabbul Izzah, décide de me toucher par une épreuve, c'est qu'Allah, dans sa bienveillance, sait que cette difficulté-là a toute sa place dans mon cheminement spirituel vers lui. C'est que dans ma vie, j'ai 42 ans ou 50 ans ou 75 ans, Allah a décrété que j'avais besoin de cette difficulté pour passer un cap spirituel, pour monter de grade et pour avoir une quantité de péchés effacés afin que je le rencontre sans ces péchés dans mon livret de compte. C'est un des noms d'Allah, à mon humble avis, qui est le plus fort à développer en ce moment, qui nous permet de nous raccrocher au taqdir, al-latif, je répète, le bienveillant. C'est celui qui prédestine pour chacune de ses créatures ce qui lui sera meilleur et profitable dans ce dunya et de l'akhira. Ça peut être des situations de bonheur, ça peut être des situations d'épreuve, mais c'est ce qu'Allah t'a envoyé pour toi et il y a un khair dedans. Donc se raccrocher à ce nom d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Rabbul Izzah dans sa clémence accorde à Shafi, celui qui donne la santé, accorde la santé aux personnes qui sont éprouvées par le Covid à cet instant, ceux qui sont en réanimation, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont chez eux, tout simplement, c'est réducteur de le dire, ceux qui sont chez eux et qui sont atteints par cette maladie, que inshallah ça ne se développe pas. Ceux qui sont dans des situations plus graves, que ça s'atténue jusqu'à ce qu'ils retournent, on va dire, chez eux, bi'idnillah, et que bi'idnillah, ils trouvent la santé, shifaka, sans moindre séquelle, et qu'Allah accorde la santé de façon générale à toute personne atteinte par une maladie, quelle que soit la maladie, qu'Allah Azza wa Jal préserve et protège ceux qui ne sont pas atteints, qu'Allah nous protège, nos proches, nos enfants, nos parents, les personnes âgées, et qu'Allah Azza wa Jal enlève définitivement cette bala, cette difficulté, cette épreuve sur cette umma, et que nous puissions en ressortir avec des acquis spirituels, au tawfiqi illa billah. Et je conclut par doua qu'Allah Azza wa Jal accorde sa rahma à cette personne qui nous a quitté hier, ce frère qui est décédé suite du Covid, donc à La Réunion. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de sa tombe rawdatun min riyad al jannah, que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, et que cette personne voit cette lucarne du Jannah qui lui est ouverte chaque jour, et que cette personne ressent ce parfum du Jannah, et que les difficultés qu'elle a vécues dans ces derniers instants de sa vie, ben c'est par ces difficultés qu'Allah a élevé son grade, a effacé tout ce qui pouvait rester dans ce livret de compte comme Sayyi'at, et par ces jours difficiles qu'Allah lui a accordé Inch'Allah un haut degré de le Jannah, et que le jour que le Yawm al-Qiyamah, dans le Jannah, cette personne retrouve, et c'est le plus grand bonheur, c'est l'extase du bonheur de le Jannah, retrouver ses proches. Jannah wa adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zawajihim wa dhurriyatihim, que cette personne retrouve son épouse, ses parents ascendants, donc et descendants, c'est la traduction du verset, ses enfants, et que toute sa famille soit réunie dans le Firdaus al-A'la min al-Jannah wa man tawfiqi illa billah.